Louf, Joël Dicker, Françoise Héritier, Patrick Deville, Arthur Dreyfus, Jean-Louis Chifflet, Mathias Sénard, Lynn Dallet et tant d'autres.
Venez nombreux samedi 24 et dimanche 25 novembre après-midi sous le chapiteau installé devant la maison de Radio France.
Un week-end événement avec le soutien du Centre National du Livre.
Je vous attends.
Plus d'informations sur radiofrance.fr.
France Inter. La voix est libre.
Ah ben tiens, c'est l'heure de la basse, j'y suis avec Daniel Mermet et tous ses amis.
Merci Daniel, merci beaucoup pour ce reportage sur la manif de droite. C'est vrai qu'après les deux manifs de ce week-end, samedi et Civitas dimanche, j'étais un peu déprimé. On me renvoyait à la honte, on me renvoyait au placard. Je devais pas m'exprimer, je devais avoir honte de ce que je suis par soi-disant 100 000 personnes dans les rues, et il y en aurait encore plus, on verra bien dans quelques semaines. Et là, ton reportage m'a vraiment fait rire, vraiment, ça a été une bouffée d'oxygène. Ça m'a remonté le moral, c'était très sympa, j'ai beaucoup ri, beaucoup. Et ces prises de parole m'ont fait prendre conscience et ben, que si ces gens ne m'aiment pas, et ben, je peux dire là vraiment avec certitude que je ne les aime pas non plus, mais maintenant je sais vraiment pourquoi. Merci encore Daniel, merci, et encore des reportages comme ça.
Ici Babette Roulet d'Albertville Europe Écologique. D'abord, premièrement, Notre-Dame-des-Landes, je remercie toute l'équipe de Mermet d'avoir été là-bas pour faire des reportages sur cette lutte qu'il faut absolument ne pas laisser tomber. On peut être différent, il peut y avoir des anards, des élus Europe Écologie, des cathos, des XY, même Bérou, donc soutient le mouvement de résistance. Il faut surtout, si on veut gagner, être malin, pas d'invective et surtout rassembler tout le monde.
Salut Daniel, salut les AMG, j'écoute ton émission ce lundi, hein. Très bien, très très bon sujet. Sur le mariage des homosexuels et sur Notre-Dame-des-Landes. Ben, moi, je suis catholique, hein, et je crois que la communauté, entre guillemets, chrétienne de France, même du monde, n'a pas le monopole de la parole de Dieu sur Terre. Voilà, je crois qu'on a tous notre avis et nos idées aussi, et notre philosophie sur ce sujet. Moi, je suis catholique et je suis pour le mariage gay, je le redis. Ce dimanche, j'ai été à la messe et le prêtre disait que le Seigneur nous avait donné une armure, un bouclier, pour se défendre. Pour se défendre contre quoi? Je crois que le Seigneur veut la paix et a donné à ses disciples, je crois, un message de paix.
Ouais, Daniel, je me marre. Il y a samedi, il y a eu des manifestations à Paris contre le mariage gay. Et dimanche, l'UMP a deux papas. C'est quand même drôle, non?
Je ne suis pas raciste, mais quand même, l'immigration, ça pose beaucoup de problèmes. Je ne suis pas antisémite, mais il faut bien avouer que les juifs, ils ont toujours les meilleures places. Je ne suis pas homophobe, j'ai rien contre les homos, mais à condition qu'ils soient discrets. Je crois qu'il y a encore pire que l'ostracisme, pire que le vrai visage de l'ostracisme dans toute son horreur, c'est lorsqu'ils portent un masque. C'est lorsqu'il se défend d'être raciste, antisémite ou homophobe, en disant « mais ». Le racisme, l'antisémite ou l'homophobie, ça commence précisément au moment où on prononce le mot « mais ». Voilà, c'était Aurélien du 93.
Bonjour Daniel et à toute l'équipe. Là, je suis en train d'écouter le reportage sur la manifestation à propos de l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Bon, je ne me prononce pas sur l'aéroport, mais je trouve qu'il y a un autre sujet qui est tout aussi préoccupant sur le massacre des terres. C'est toutes ces zones artisanales, soi-disant, ces grands centres commerciaux qui sont construits un petit peu partout. J'ai eu l'occasion encore ce week-end de vadrouiller un peu. Et on voit des hectares et des hectares qui sont massacrés au profit de grands centres commerciaux, de nos chers amis Leclerc et compagnie. Et là, on n'entend pas beaucoup les gens manifester contre l'occupation des sols, j'irais, hors agraire.
Oui, bonjour à tous. Eh bien, c'est Maurice de Nantes. Alors moi, j'étais à la manif hier, comme les 40 000 autres Notre-Dame-des-Landes. Eh bien, c'est un bon souvenir, un grand souvenir de fraternité et d'élan collectif. Moi-même, j'ai apporté des palettes et puis quelques outils et j'ai mis à profit mes talents de menuisier. Maintenant, je voulais dire, maintenant qu'on est chaud, ben, qu'est-ce qu'on attend pour aller reconstruire un quorum? Non, c'est pas prévu.
Merci pour tous ces messages, chers AMG. Beaucoup de messages et de préoccupations. autour de l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, évidemment, autour aussi de la présence des Verts dans le gouvernement, à nouveau la question du gaz de schiste qui revient, tout nous ramène aujourd'hui aux problèmes d'environnement et d'écologie. On entend très souvent écologie politique. Aujourd'hui, on va passer une heure, et demain également, avec l'instigateur de l'écologie politique qui fut André Gors. André Gors est encore très largement inconnu ou méconnu du public, du grand public. Or, le cinquième anniversaire de sa mort, ces jours derniers, a donné lieu à des conférences et à un regain d'intérêt pour son œuvre. Au printemps 2011, on vous avait présenté deux émissions avec André Gors, avec la voix d'André Gors, enregistrée sur France Culture en 1991, dans une suite d'émissions remarquables à voix nue. Et nous étions avec Christophe Fourel, un très bon guide dans la pensée et dans le travail et dans l'œuvre d'André Gors. C'est ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de retrouver ce penseur radical que fut André Gors. J'insiste beaucoup sur la radicalité et sur l'impossibilité pour lui de régler les questions d'environnement et d'écologie sans sortir du capitalisme. Pour lui, la question de l'écologie politique, c'est la question de la sortie du capitalisme. Donc il y a quelque chose là de radical, d'important, qui mérite, je crois, qu'on passe cette heure ensemble. Auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale, au 01 56 40 37 37.
Chers AMG, le prochain Café Repère de Rouen se tiendra le jeudi 22 novembre de 18h à 20h, au Café de l'époque, 43 rue Armand Carrel. Nous lancerons des échanges et des débats autour d'une revue de presse autogérée par les participants. Les sujets brûlants de l'actualité politique et économique seront abordés dans la joie et la bonne humeur, si possible. Venez nombreux et apportez vos idées, vos objectifs, vos rêves et vos détestations, nous en ferons bon usage. C'était Alain de Saint-Étienne-du-Rouvray.
Avis aux radios, arrêtez de nous emmerder toutes les heures à chaque flash en disant « on ne sait toujours pas qui est élu patron de l'UMP ». Le patron de l'UMP, ça fait longtemps qu'on le connaît, c'est Laurence Parisot. Voilà, si vous n'aviez pas l'info, je vous la donne. Ciao à tous, ne dites pas merci.
Oui, bonjour à toutes et à tous. En réaction au réactionnaire de tout poil, manifestant contre le mariage pour tous, il parle d'homophobie. Bon alors, il faut un peu calmer le jeu quand même, les enfants, parce que moi je pense justement à ces gosses qui sont en train de se construire sexuellement et qui vous entendent, et qui entendent comme ça des discours absolument abject sur le fait que homosexualité rimerait avec déviance. Vous parlez d'homofolie. Associez l'homosexualité à la folie. Il n'y a aucune folie dans le fait d'être homosexuel.
Salut, c'est Daniel Mermès et là-bas, j'y suis. André Gors, un penseur pour le 21e siècle avec Christophe Fourel.
Flight number 2, arriving from New York.
Je n'ai pas les moyens constitutionnels, si vous voulez, psychiques, spirituels, je n'ai pas les moyens pour avoir une volonté de puissance. Sauf le pouvoir que vous donne la contestation. J'estime d'ailleurs que le rôle des intellectuels, au sens traditionnel du terme, pas au sens que ça a pris d'aujourd'hui, que la mission des intellectuels, c'est de contester. Le radicalisme dans la pensée consiste dans la contestation radicale. Mais la contestation radicale a besoin de critères.
Dans cet extrait, on a à la fois une question et une réponse. La question, c'est pourquoi est-ce qu'on n'a pas entendu cette voix plus souvent ? Mais on a la réponse, parce que peut-être trop contestataire et trop radical. Cette voix, c'est celle d'André Gors, qui est un journaliste et philosophe, penseur pour le 21e siècle, c'est le titre d'un livre que vous avez dirigé, Christophe Fourel, et qui nous donne l'occasion d'évoquer cet homme, ce penseur, et sa pensée. André Gors est lié à l'idée d'écologie politique. Hein ? Il a développé cette idée d'écologie politique. Sa pensée ne se résume pas à ça, mais c'est quand même ce qui est attaché à son nom. Ce qui est lié à son nom, c'est l'écologie politique. Comment, la question la plus difficile pour commencer, comment vous situez André Gors dans le paysage intellectuel général?
Écoutez, je crois qu'il a une place à part. Je crois que vos propos liminaires l'illustrent assez bien. André Gors est un personnage dans la pensée intellectuelle et européenne, pas seulement française, est un personnage à part parce qu'il a lui-même un itinéraire tout à fait hors norme. André Gors, vous avez dit qu'il était philosophe tout à l'heure, mais c'est un autodidacte. C'est quelqu'un qui a élaboré une pensée tout à fait originale, qui certes a un écho pas immédiat, c'est-à-dire c'est pas quelqu'un qui est systématiquement été branché sur l'actualité, mais je crois que sa pensée inspire de nombreuses personnes, et en particulier aujourd'hui la pensée des écologistes. On peut dire qu'il est un inspirateur de l'écologie politique, ou un père spirituel de l'écologie politique, parce qu'il a mis en avant à quel point notre système économique était antinomique avec l'écologie politique. Il est venu à l'écologie politique par la critique de la société de consommation, et ce, dès le début des années 60.
Alors, on va commencer par son identité, parce que on dit André Gors, mais il s'appelait pas André Gors. Il s'appelait Gerhard Hirsch, puis Gerhard Horst, puis André Gors, et il a été connu aussi sous son nom de journaliste, de Michel Bosquet. Ça fait quand même quatre identités, et on va l'entendre se définir et se présenter lui-même.
Mon père était juif et ma mère était catholique. Et comme tous les Viennois, comme tous les centres européens, plutôt antisémite par sa tradition familiale. Ce qui fait que je suis né dans une famille où rien de ce qu'on pouvait attendre de moi n'était ce que je pouvais fournir. C'est-à-dire que l'attente des uns comme des autres était une attente que je ne pouvais pas satisfaire. C'est donc par rapport à ma famille, à la culture originelle, aussi bien paternelle que maternelle, en porte-à-faux. Et toujours coupable. Coupable de ne pas être ce qu'on attendait de moi, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Comment dire ? J'étais rejeté sur moi-même. Il n'y avait aucune vérité, aucune attente dont je pouvais dire « voilà ce que je dois faire ». Parce que je ne pouvais pas. Donc j'étais un fils plutôt soumis à ma mère, qui essayait de correspondre à son attente à elle, tout en sachant que c'était impossible. Et comme elle attendait de moi que je sois un arien viril et germanique, il est évident que ma soumission à elle était exactement le contraire de ce qu'elle pouvait attendre de moi. Et de là vient de ce que j'appelle l'absence d'identité, c'est-à-dire que je suis né sans image de moi-même. J'ai grandi sans avoir aucune image de moi-même. En plus, ma famille a changé de nom une première fois en 1930, puisque mon père avait un nom qui peut être juif, qui peut ne pas être juif, mais en tout cas, comme il a jugé préférable de changer de nom. Ce qui fait que je n'ai même pas une identité nominative, ou nominale. Et c'est pour ça que je change de nom très facilement. J'ai un nom allemand au départ, et quand j'ai commencé à faire du journalisme en France, c'était en 51, dans un journal qui s'appelle Paris Presse. Ils m'ont dit, c'est pas possible que tu signes d'un nom allemand, les Français n'aiment pas les Allemands. J'ai traduit mon nom, Horst, en français. Une des traductions possibles, c'est Bosquet. Et alors, on m'a dit, Gérard, il y en a déjà trop, il faut que tu changes ça aussi. J'ai pris Michel. Voilà.
En 1951, Gors commence dans le journalisme sous le nom de Michel Bosquet. Mais auparavant, la grande rencontre de sa vie, ce sera la rencontre avec Jean-Paul Sartre.
Absolument, c'est une figure pour lui presque paternelle. Jean-Paul Sartre avait une vingtaine d'années de plus que lui, et c'est par la découverte de Jean-Paul Sartre qu'il va commencer à forger sa pensée et se former à la philosophie en s'appuyant sur les textes de Sartre. Il lit bien sûr, André Gors, tout jeune, lit La Nausée, Le Mur, et puis en 1943, il va tomber sur ce monument de la philosophie sartrienne qui est L'être et le néant. Mmh. Et c'est à partir de la lecture de L'être et le néant qu'il va vraiment essayer de suivre et s'inspirer de la pensée de Jean-Paul Sartre, au point d'ailleurs qu'il cherchera à prolonger la pensée de l'être néant que André Gorz, à cette époque-là, juge insuffisamment opérationnel. Et puis il présentera d'ailleurs ce texte de 1500 pages à Jean-Paul Sartre, qui, à l'époque, c'est à la fin des années 50, est un peu distrait et n'attache pas plus d'importance que ça à l'écriture de ce traité.
À l'époque, Sartre est prépondérant, hein, c'est l'intellectuel français.
À cette époque-là, vous avez raison, Sartre est au sommet de son prestige public, incontestablement. Et c'est d'une certaine manière le fait que Sartre, finalement, ne donne pas véritablement de suite à le traité que vient d'écrire le jeune Gerhard Horst, qui va obliger ce jeune homme à se lancer à nouveau dans un exercice complètement fou et qui va donner naissance 2 ans après à un ouvrage qui, pour le coup, va le révéler, cet ouvrage qui s'appelle « Le traître » et qu'il sera d'ailleurs préfacé avec un avant-propos très élogieux d'une 40aine de pages de Jean-Paul Sartre et qui est le premier ouvrage d'André Gorz, qui est un ouvrage tout à fait étonnant, quelquefois difficile à lire, mais en même temps passionnant parce que c'est une analyse existentielle. Et il cherche par cette méthode à pouvoir s'autoriser à dire « je ».
Sartre, c'était celui auquel je pouvais m'identifier parce que, comme philosophe, il se mettait à penser apparemment à partir de rien. Il ne prenait pas les concepts des autres, il forgeait ses propres concepts. Donc on peut dire que c'est quelqu'un qui part de pratiquement rien pour construire sa pensée, chemin faisant, de façon cohérente. Et c'est ça qui m'a beaucoup plu chez lui. C'est quelqu'un qui ne se situe pas dans une école et dont les critères ne sont pas des critères reçus, ce sont des critères inventés, fondés, construits. C'est-à-dire pour moi, Sartre, c'était la négation, surtout la négation de tout ce qui était pour moi inacceptable et inassimilable. On a probablement du mal à l'imaginer aujourd'hui, quelqu'un qui était rejeté par tout le monde, avec une hargne et une hostilité qu'on trouve rarement dans l'histoire de la littérature. Il était rejeté comme un pervertisseur de la jeunesse, comme nihiliste, comme ennemi de la classe ouvrière, tout ce qui est rejeté par la droite autant que par la gauche. Donc c'était mon homme, c'était celui que tout le monde rejetait, je pouvais m'identifier à lui. Il était, à sa façon, un exclu dans tout le système des valeurs et dans tout le système culturel ambiant. Alors, quand il est venu en Suisse, invité par une association d'études des lettres, comme il y a des gens qui savaient que j'avais lu tout ce qu'il avait écrit, ils m'ont invité. Après, il y avait un cocktail, et j'ai accaparé Sartre pendant 1h30. Dès que je me suis assis à côté de lui, et puis on a parlé, interminablement, il m'a beaucoup séduit, et aidé, en un sens, par une vitalité très généreuse. Vous savez, moi, je ne l'imaginais pas du tout comme ça. Non, puisque sa philosophie de l'époque, c'était une philosophie de l'échec, de l'injustifiabilité, de la culpabilité, et de l'échec inévitable qui se terminait. Je pense que vous vous souvenez, l'être aimant se termine, que de ce point de vue-là, il revient au même d'être conducteur des peuples ou de s'enivrer solitairement. C'est-à-dire que l'ivrogne ou les dictateurs allait également à l'échec inévitable qui était inscrit dans ce qui était normalement le projet fondamental de l'homme. Alors moi, je m'attendais à un type pour qui, effectivement, tout se vaut, mais négativement, c'est-à-dire que rien ne vaut, et rien ne vaut rien, et tout vaut rien. Et j'ai trouvé quelqu'un d'une grande vitalité qui... Il remplissait l'espace autour de lui. Il le remplissait dangereusement, puisque pour prendre sa cigarette, il levait le coude jusqu'à la hauteur de l'épaule. Il donnait donc des coups de coude autour de lui tout le temps. Les gens n'osaient plus approcher, puisqu'il était tout le temps en train de bouger. Et il parlait avec une joie de vivre contagieuse. Nous avons parlé surtout de la méthode régressive-progressive, Donc de la façon dont on peut reconstruire une personne et par quelle méthode de questionnement. Et quand j'ai eu terminé donc cette entreprise d'auto-compréhension et d'auto-remaniement, d'auto-changement, je lui ai dit, vous ne voulez pas me faire une préface à ça? Il a dit, écoutez, si je vous fais une préface, ça va vous marquer. Vous serez compromis avec moi pour toujours. Alors, je vous fais une composition honnête, dit-il. Je ne vous fais pas de préface, mais je vous fais une critique dans un journal littéraire. Alors je dis, ce n'est pas une critique. Vous me faites une préface et je serai compromis pour toujours avec vous. Je ne demande rien d'autre. Il m'a fait une préface. Il a mis le temps. C'est une très belle chose. Une des très belles préfaces, un des très beaux textes qu'il a fait. Mmh. Oui, oui. Si vous voulez vraiment arriver à penser comment vous êtes devenu ce que vous êtes et comment vous pouvez devenir quelqu'un qui est capable de dire ça c'est moi. Mais ce n'est pas le conditionnement, ni l'éducation, ni la socialisation, ni l'air du temps qui me fait penser ça, c'est moi qui le pense. Et bien il faut d'abord il faut se dépouiller de tout, ce qui ne m'était pas difficile, mais surtout il faut être sans aucune complaisance envers les sédiments que chacun charrie avec soi et qui sont des empreintes qu'il a reçues, souvent sans comprendre pourquoi et sans s'en apercevoir, de son histoire et de son enfance. Et du moment que vous savez que ces empreintes existent, vous pouvez non pas les effacer, vous pouvez vous en servir. J'ai reçu beaucoup de lettres de gens qui ne me ressemblent en rien, c'est-à-dire qui ne sont ni bâtards juifs à rien, ni centre-européens, ni... Voilà, qui ont dit, c'est moi, je me suis reconnu. Bien sûr qu'ils ne sont pas reconnus dans tout, mais ils sont reconnus dans le problème. Quel problème? Comment est-ce qu'on peut devenir quelqu'un qui est capable de dire « je »
Échapper au déterminisme et au conditionnement, non pas les effacer mais s'en servir, c'est une pensée très ancienne. Hein, il n'y a pas quelque chose de nouveau là. Christophe Fourel.
Il n'y a pas quelque chose de nouveau. En même temps, je crois que André Gors, à l'occasion de la rédaction du Traître, a poussé l'exercice très loin. Et c'est ce qui fait que ce texte est étonnant. Parce qu'il y a une dimension à la fois psychanalytique, c'est-à-dire il revient sur les conditions de son enfance et un certain nombre de traumatismes. Mais en même temps, Gors ne s'en tient pas simplement à l'aspect purement psychanalytique des choses. Il essaye de resituer ça dans l'histoire, avec un H majuscule, si vous voulez. Il essaie de rassembler tous les éléments qui font qu'il est à cette place, à ce moment-là, et pourquoi. Et c'est à partir de toute cette analyse à la fois historique, et il se base beaucoup également sur l'œuvre de Marx dès le début pour comprendre sa situation, sa propre situation, et effectivement à partir de sa connaissance de la psychanalyse qui parvient à effectivement faire ce remaniement de sa propre personne et réussir cette conversion morale selon l'acception existentialiste et qu'il arrive à faire effectivement ce remaniement avec l'aide de Jean-Paul Sartre.
André Gors, sa voix, la morale de l'histoire.
Donc j'ai passé à autre chose, puisque ayant compris que la solution de vos problèmes existentiels ne sont jamais en vous-même, dans le remaniement de vous-même, mais dans le dépassement de vous-même dans une action qui soit reconnaissable par les autres, c'est-à-dire qui laisse des traces objectives, les questions que je me suis posées étaient des questions... mettons, éthico-politique. J'ai commencé à m'expliquer avec Marx et le marxisme. Et c'est l'ouvrage suivant, qui s'appelait « La morale de l'histoire », qui n'est pas très bon, mais qui contient de bonnes choses, en particulier des morceaux de Terry, l'aliénation dans la consommation, dans le travail, bien sûr, et l'aliénation par la rationalité économique. Ce livre, il a eu des lecteurs chez les étudiants communistes. Mais j'avais toujours été lié à l'extrême-gauche, mais à une extrême-gauche insoumise, c'est-à-dire non-conformiste, qui n'aimait pas ce dogmatisme du Parti communiste français. Non, je ne pouvais pas m'entendre avec un parti, mais j'estimais encore à l'époque que le Parti communiste français, ça valait rien, mais qu'il fallait changer. Moi donc, j'étais quelqu'un qui a estimé que le marxisme et la problématique de l'exploitation dans le marxisme étaient une fausse piste, et que le radicalisme ouvrier, que le radicalisme subversif, contestataire, était une question d'oppression et d'aliénation beaucoup plus que d'exploitation économique. Ça, c'était la thèse que j'avais défendue dans ce livre. Mais c'est des choses qu'on trouve chez Marx. Certes, c'est important. Tiens, les questions salariales, les questions de redistribution, de la plus-value, de lutte contre l'exploitation et ses méthodes. Mais si le mouvement ouvrier devient hégémonique, ça ne sera pas à cause de ça. S'il devient hégémonique, ce sera parce qu'il sera porteur d'une idée et d'une pratique d'émancipation des gens de toutes les formes d'oppression, d'humiliation, d'instrumentalisation et de mutilation que leur impose la division du travail, la technicisation et l'expropriation dont ils sont l'objet, l'impossibilité de se reconnaître en tant qu'agent dans cette pratique qu'est le travail.
La voix d'André Gorz, en 1991, sur France Culture, on a voulu faire entendre à nouveau cette voix. On avait promis au départ qu'on allait parler d'écologie. Quel lien vous faites entre ce qui est dit là, ce que dit Gorz, cet ouvrage qu'il évoque, La morale de l'histoire, et ensuite sa pensée sur l'écologie, je le rappelle, pensée sur l'écologie politique et anticapitaliste?
Alors effectivement, La morale de l'histoire est l'ouvrage qui fait paraître en 1959. Et comme il le dit dans les toutes premières pages de cet ouvrage, André Gorz explique qu'il vient de traverser l'œuvre de Marx, c'est son expression. Mais en même temps, il est totalement insatisfait de la façon dont était relayée la pensée de Marx à l'époque. Et dans La morale de l'histoire, effectivement, André Gorz commence à élaborer une théorie de l'aliénation et il essaie de montrer comment et par quelle voie on peut à la fois s'émanciper du travail et s'émanciper dans le travail. Et là, déjà, on voit poindre l'écologie politique chez André Gorz, curieusement, parce que André Gorz avait une conception de l'écologie qui était d'abord l'écologie au sens du milieu de vie, déterminant de la qualité de vie. Donc, il ne va jamais escamoter la question du travail des hommes dans leur vie quotidienne. Et puis, en même temps, dans cet ouvrage, il va faire l'analyse de la société de consommation, parce que André Gorz pense toujours l'homme à la fois producteur et donc travailleur, mais également l'homme consommateur, et d'essayer de comprendre en quel sens il est justement aliéné dans un système économique qui le domine. Et donc, c'est quand même le socle de base de sa pensée d'écologiste qui est en train de naître à ce moment-là.
Alors, il va se lancer ensuite dans une critique du syndicalisme qui va être diversement appréciée. Il faut quand même se souvenir que dans les années 60, début des années 70, c'est le plein emploi, et il y a une critique de l'aliénation dans le travail. Hein, on a « Perdre sa vie à la gagner », on a des chansons, on a des tas de choses sur « Les prisonniers du boulot font pas des vieux os ». Le travail est remis en question. 30 ans plus tard, aujourd'hui, la question, c'est le travail, le chômage partout. Et la question aussi, c'est qu'il n'y a plus assez de travail pour tout le monde. C'est au moins ce que pense Gorz, il y a 20 ans, et ce que pensent pas mal d'autres observateurs, à commencer par ceux qui n'ont pas de boulot. Là, on a basculé.
Il y a un problème de régression syndicale qui tient un très grand nombre de facteurs. Ça tient au fait que de moins en moins de gens arrivent à s'identifier à leur travail. Toute la classe ouvrière classique, pour ne pas dire traditionnelle, considérait que le travail est source de puissance, sinon de pouvoir. C'est-à-dire que le travailleur, par sa fonction productive, à la fois technique et économique, détient un pouvoir dans la société, qu'il devrait arriver à traduire en termes politiques. Ce pouvoir technique, il n'y a aucune raison qu'il ne le rende pas dominant en tant que classe dans la société. Et c'était vrai aussi longtemps que les industries qui employaient le plus de main-d'œuvre étaient les industries essentielles dans une économie. Par exemple, les mineurs, les sidérurgistes, les chaudronniers, les ouvriers du bâtiment étaient les héros de la production. Mais ça n'est plus le cas. La structure industrielle a complètement changé. L'industrie dégage de la main-d'œuvre au lieu d'en recruter. Et le travail n'est plus source de pouvoir, même dans l'industrie. Parce que le travail a été beaucoup plus étroitement fonctionnalisé qu'à l'époque où il y avait des mineurs, des sidérurgistes, etc., etc., qui avaient un savoir-faire irremplaçable, qui avaient des trucs professionnels qui ne s'apprenaient pas. Mais à partir du moment où vous standardisez les actes productifs, les actes techniques, et qu'ils deviennent réalisables par n'importe qui après une formation de quelques jours, ou quelques semaines, ou quelques mois, au mieux, donc l'ouvrier devient interchangeable. Il a beaucoup de mal à s'identifier à sa tâche. Et s'il s'identifie à sa tâche, cette identification n'est plus pour lui une source de pouvoir. Son pouvoir ne peut renaître que sur un autre plan que celui du travail, qui est celui de la contestation politique. Premièrement, est-ce qu'il est vraiment nécessaire de produire comme nous produisons? Et deuxièmement, est-il vraiment nécessaire de produire ce que nous produisons? Et la réponse est généralement négative. Il y a une contestation professionnelle qui entre dans l'industrie par le biais non plus du syndicat, mais par le biais des citoyens. Parce que ces ouvriers agissent comme citoyens et non plus comme syndiqués. Et cette question est centrale puisque le problème écologique est central et que jusqu'à présent, très peu de syndicats ont réussi à inscrire le problème de la conversion écologique dans leur programme de politique syndicale. Parce que dans la mesure où ils défendent les intérêts professionnels d'ouvriers qui sont censés s'identifier à leur travail, parce que l'éthique du travail, c'est ça, ils ne peuvent pas. On ne peut contester les finalités et les modalités de la production que si on prend du recul par rapport à cette production. Il s'agit, si vous voulez, d'un changement de paradigme. C'est le plus de savoir est-ce qu'on est bien payé et bien traité dans ce qu'on fait. La question est-ce qu'on doit faire ce qu'on fait? Ça devient finalement une question morale, une question éthique. Ça, c'est un chapitre qui annonce l'écologisme, si vous voulez, la critique d'un modèle de consommation qui cherche à satisfaire des besoins avec le flux maximum de marchandises aussi sophistiqué que possible. Vous avez une façon bouddhiste de satisfaire les besoins, c'est de les satisfaire au moindre coût. Avec la moindre quantité, la moindre dépense de travail, la moindre destruction de l'environnement. Et puis vous avez une méthode qui est celle caractéristique de la civilisation capitaliste, qui est de dire les besoins sont là pour permettre de faire tourner la machine et de produire de plus en plus en réalisant de plus en plus de plus-value, c'est-à-dire de profit sur ce qu'on produit. Dès qu'il faut toujours ajouter du superflu et du luxe au nécessaire. Il faut vendre le nécessaire sous l'image du luxe et du superflu.
Christophe Fourel, comment cette critique du syndicalisme a-t-elle été accueillie en général et en particulier par les syndicalistes à l'époque ?
Écoutez, André Gors est connu aussi pour être un philosophe du travail et un philosophe du sens. C'est vrai qu'il a été, tout au long de son œuvre, très proche du monde ouvrier, très proche du monde syndical. Il a écrit en 1964 un ouvrage tout à fait fondamental dans son œuvre qui s'appelle « Stratégie ouvrière et néo-capitalisme ». Mais quelquefois, sa pensée très originale l'a mis en porte-à-faux avec le syndicalisme qui finissait par se dire que la pensée d'André Gors était en train d'un petit peu scier la branche sur laquelle, effectivement, le syndicalisme était assis. Je crois que Gors mettait l'accent sur le fait que, dans le système capitaliste, les travailleurs, les personnes, sont de plus en plus confrontés à une difficulté d'identification à leur travail. Et il a notamment, en 1980, fait paraître un ouvrage qui était assez connu d'ailleurs, parce qu'il avait fait beaucoup parler de lui, qui s'appelle « Adieu au prolétariat », et justement qui a suscité beaucoup des débats avec le monde syndical, en particulier Edmond Maire, qui était à l'époque le leader de la CFDT, dans la mesure où André Gors avait identifié dans cet ouvrage ce qu'il appelait la non-classe des non-travailleurs. C'est-à-dire pas seulement les gens qui sont exclus du travail, mais ces gens qu'il considérait comme de plus en plus nombreux et qui étaient ceux qui ne pouvaient pas s'identifier à leur travail. Et on voit bien que le système économique aujourd'hui, qui parcellise les gens, qui spécialise les gens, ou qui prive véritablement les personnes de leur propre savoir-faire professionnel, fait que les travailleurs, les salariés, ne peuvent pas se reconnaître pleinement dans leur travail. Et on voit bien que, en plus de ce phénomène, peu à peu, le travail salarié à plein temps s'est complètement délité, puisqu'il y a, à côté d'un chômage de plus en plus massif, plus en plus de gens qui sont au travail de façon intermittente. Même en ayant un travail, ce n'est pas la garantie de sortir de la pauvreté, puisque s'est développé le phénomène de ce qu'on appelle aujourd'hui les travailleurs pauvres. Donc on voit bien que le monde du travail s'est complètement délité. Et d'une certaine manière, cette actualité, cette réalité donne un petit peu raison à André Gors dans sa capacité à voir que justement, c'est pas qu'il n'y a plus de travail qu'il voulait dire, mais la forme emploi du travail, c'est-à-dire au sens salarié, à temps plein, 35 heures par semaine et pour une vie entière, est quelque chose qui est en train d'être complètement dépassé.
Il était journaliste, on l'a dit en commençant. Quelle est la part du journaliste et du philosophe dans ce travail-là, sur sa réflexion sur le syndicalisme ?
Alors, il était effectivement journaliste. Il a commencé sa carrière comme journaliste à Paris Presse en 1951, puis très vite, il est rentré en 1955 à l'Express, puis ensuite, en 1964, il est devenu un des cofondateurs du Nouvel Observateur. Mais c'est sous son pseudonyme de Michel Bosquet qu'il est connu comme journaliste, en fait. Et André Gors est son pseudonyme de philosophe. Philosophe du sens, du travail, de la pensée post-capitaliste. Mais, comment dire, son travail de journaliste et d'observateur de la réalité sociale a toujours servi le philosophe André Gors pour le théoricien.
Quel genre de papier il faisait ?
Alors, Michel Bosquet, en tant que journaliste, très vite a été spécialisé sur les rubriques économiques et sociales.
Oui, c'est ça.
Simplement, il a laissé beaucoup dans les esprits la mémoire de quelqu'un qui s'intéressait beaucoup aux problèmes écologiques très tôt, et puis surtout de la question du nucléaire. André Gors a laissé derrière lui des dizaines et des dizaines de papiers sur le système nucléaire.
Dans les années 60 ?
Le premier article qu'il a écrit sur le nucléaire date de 1963. C'est un article qu'il a écrit pour l'Express et qui était une enquête sur l'usine de Pierrelatte, qui est l'usine qui fournit en fait le combustible pour les centrales nucléaires aujourd'hui. Donc très tôt, il s'est intéressé effectivement à l'industrie nucléaire et il a critiqué énormément.
Dès 1963.
Dès 1963.
Mon oncle, infâme bricoleur, faisait en amateur des bombes atomiques. Sans avoir jamais rien appris, c'était un vrai génie, question travaux pratiques. Il s'enfermait toute la journée au fond de son atelier pour faire ses expériences. Et le soir, il rentrait chez nous et nous mettait en transe en nous racontant tout. Pour fabriquer une bombe à mes enfants, croyez-moi, c'est vraiment de la tarte. La question du détonateur se résout en un quart d'heure, c'est de celle qu'on écarte. En ce qui concerne la bombache, c'est pas beaucoup plus vache, mais une chose me tourmente, c'est que celle de ma fabrication n'ont qu'un rayon d'action de 3,50 m. Il y a quelque chose qui cloche là-dedans, j'y retourne immédiatement. Il a bossé pendant des jours, tâchant avec amour d'améliorer le modèle. Quand il déjeunait avec nous, il dévorait d'un coup sa soupe au vermicelle. On voyait à son air féroce qu'il tombait sur un os, mais on n'osait rien dire. Et puis un soir pendant leur repas, la tonton qui soupire et qui s'écrie comme ça. À mesure que je deviens vieux, je m'en aperçois mieux, j'ai le cerveau qui flanche. Soyons sérieux, disons le mot, c'est même plus un cerveau, c'est comme de la sauce blanche. Voilà des mois et des années que j'essaye d'augmenter la portée de ma bombe. Et je ne me suis pas rendu compte que la seule chose qui compte, c'est l'endroit où ce qu'elle tombe. Il y a quelque chose qui cloche là-dedans, j'y retourne immédiatement. Sachant proche le résultat, tous les grands chefs d'État lui ont rendu visite. Il les reçut et s'excusa de ce que sa cagna était aussi petite. Mais sitôt qu'ils sont tous entrés, il les a enfermés en disant « Soyez sages ». Et quand la bombe a explosé, de tous ces personnages, il n'est plus rien resté. Quand on devant ce résultat ne se dégonfla pas et joua les andouilles, au tribunal on l'a traîné et devant les jurés le voilà qui bafouille. Messieurs, c'est un hasard affreux, mais je jure devant Dieu, comme mon âme et conscience, en détruisant tous ces tordus, je suis bien convaincu d'avoir servi la France. On était dans l'embarras, alors on le condamna et puis on l'amnistia. Et le pays reconnaissant les luttes immédiatement, chef du gouvernement.
On continue avec vous, Christophe Fourel. Au début des années 70, il y a un journal écologiste qui apparaît, qui s'appelle Le Sauvage, après La Gueule Ouverte. Auparavant, il y a eu La Gueule Ouverte de Charlie Hebdo, et Le Nouvel Observateur, je crois que c'est ça, ou L'Observateur, sort Le Sauvage, ça, c'est le même éditeur.
Je ne sais pas si c'était le même éditeur. En tout cas, c'est vrai que c'était un mensuel qui avait été créé par Alain Hervé. Et c'est un mensuel, le Sauvage, auquel André Gorce a beaucoup contribué parallèlement à son activité de journaliste au Nouvel Observateur. Parce que à cette époque-là, si vous voulez, André Gorce cherche par tous les moyens, par tous les canaux possibles, à diffuser un petit peu la pensée de l'écologie politique qu'il est en train de forger. Et il se trouve également que c'est à cette même période-là, au début des années 70, qu'il va faire la rencontre d'un autre personnage après Jean-Paul Sartre qui va beaucoup compter pour l'évolution de sa pensée, qui est la personne de Ivan Illich, qui est également un penseur incontournable aujourd'hui quand on cherche à réfléchir aux questions de l'écologie politique. Il se trouve que le hasard a fait que Ivan Illich était, comme André Gorce, né à Vienne en 1926, c'est-à-dire 3 ans après André Gorce, mais lui a un parcours très différent qui va l'amener ensuite au Mexique, où il va à Cuernavaca monter un centre d'information et il va développer sa pensée. Et on sait très bien aujourd'hui qu'un certain nombre de notions qu'on utilise dans la vie courante, par exemple celle de contre-productivité, est une notion élaborée par Ivan Illich, que André Gorce utilisera, puisqu'il a été, avec d'autres comme Jean-Pierre Dupuis, ceux qui ont introduit la pensée d'Ivan Illich en France, et qui est une pensée importante pour l'écologie politique, effectivement.
Ce qui se passe quand même, c'est qu'on a l'impression qu'il est plus radical que ceux qui se réclament de lui. Gorce. Je suppose les Verts, aujourd'hui, se réclament de lui. Mais enfin, lui, il est sur une pensée, encore une fois, radicale en matière d'écologie et absolument anticapitaliste. Il trouve qu'il y a une incompatibilité totale entre l'écologie, telle qu'il l'entend, pas seulement la nature et l'environnement, mais aussi la société, aussi le social, et le capitalisme.
Oui, effectivement.
Et ceux qui se réfèrent à lui, je pense au Nouvel Observateur, etc., ne sont pas anticapitalistes.
Écoutez, je pense que vous avez raison sur le fait que André Gorce apparaît toujours plus radical que ceux qui ont suivi sa pensée. Simplement, j'ai l'impression que les choses sont en train d'un petit peu changer à ce niveau-là. Si on regarde du côté des politiques, et c'est là où je trouve ça intéressant, vous avez des jeunes femmes qui revendique clairement que Gorce est pour elle un inspirateur. Et parmi elles, vous avez aujourd'hui Cécile Duflot, qui est la leader des Verts, qui le dit très clairement. Mm-hmm. Et puis vous avez des gens comme Clémentine Autain, qui, effectivement, fait partie plus d'une mouvance de la gauche radicale. Et puis, plus récemment, après le drame de Fukushima, vous avez des gens comme Aurélie Filippetti, qui, au sein du Parti socialiste, essaie de faire évoluer le Parti socialiste sur la question du nucléaire. Alors, je ne sais pas si elle revendiquerait une sorte de filiation avec André Gorz, mais il n'empêche que son attitude, qui cherche à faire évoluer le Parti socialiste sur cette question-là, peut, d'une certaine manière, être raccrochée à la pensée d'André Gorz.
Une politique écologique est nécessairement une politique anticapitaliste, une politique qui cherche à limiter le champ de la consommation marchande et des échanges marchands.
On continue avec André Gorz, sa voix, son œuvre. Il fait une critique, entre autres, de la culture.
Alors, du moment qu'il existe une demande potentielle qui permet de rentabiliser une industrie, par exemple l'industrie des embryons ou le commerce d'organes, en vertu de quoi allons-nous nous y opposer si nous posons que le critère d'évaluation unique et suprême, c'est la rentabilité, l'expansion du commerce, de l'industrie et la création d'emplois. Mais ce n'est pas des comités d'éthique qu'il faut charger de ça. Il faut nous rendre compte que nous vivons dans une civilisation qui a détruit la culture. Qu'elle a détruit par la spécialisation de tout et de n'importe quoi, la technicisation de tout et de n'importe quoi, et l'évaluation de tout en fonction de critères économiques. Nous ne sommes jamais allés aussi loin potentiellement, dans la soumission de la vie et du sens de la vie à des critères totalement extrinsèques, c'est-à-dire utilitaires et technicistes. Donc ce ne sont pas des comités d'éthique qui vont nous sortir de l'auberge, parce que quel est le pouvoir d'un comité d'éthique? Il est nul. Ils donnent des avis et puis on en tient compte ou on n'en tient pas compte. Le symptôme de cette crise, ce qu'on appelle la crise du sens, la crise d'orientation et l'expression, c'est que nous n'avons plus de culture du quotidien. C'est que les gens ne sont plus chez eux dans leur vie, ils ne sont plus chez eux dans le monde qu'ils habitent, qui ne sont plus chez eux dans leur travail, ils ne sont chez eux nulle part. Et contre cela, le mouvement écologiste est une des principales formes de rébellion. Le mouvement écologiste est avant tout un mouvement des gens pour se réapproprier leur vie et leur milieu de vie et pouvoir le soumettre à leurs propres décisions, à s'en rendre maître de nouveau.
Voilà la définition, là c'est clair, la définition qu'André Gorz donnait de l'écologie.
Oui, ce qui est intéressant, je trouve, dans cet extrait, c'est que André Gorz dit à quel point, effectivement, dans notre société, dominée par la logique économique, aujourd'hui, eh bien, la culture a été effectivement détruite. Au sens où les choses sont tellement parcellisées, que comme il le disait lui-même, dans notre quotidien aujourd'hui, nous produisons rien de ce que nous consommons et nous ne consommons rien de ce que nous produisons. Donc l'individu producteur-travailleur et l'individu consommateur sont complètement séparés et il n'y a plus d'unité de la personne. Et c'est ce qui lui fait dire qu'aujourd'hui, dans notre société, qui est en quête de sens, qui est en quête d'orientation, elle est en quête de sens, elle est en quête d'orientation, parce qu'elle a perdu la capacité à produire une culture du quotidien, où les gens, comme il le dit lui-même, se sentent chez eux quelque part, se sentent dans un milieu de vie qui leur est naturel, un milieu de vie où la qualité de la vie peut primer. Et aujourd'hui, notre société fait qu'elle favorise une forme de repli sur soi ou un repli sur la consommation individuelle, justement pour être là, pour contrebalancer les insatisfactions que les gens ont, que ce soit dans le cadre de leur travail ou dans le cadre de leur environnement immédiat qui apparaît comme quelque chose qui n'a plus de sens.
Y compris la consommation d'objets ou de produits bio ou à prétention ou à présentation écologiste. On a le greenwashing, on a le green business qui se sont développés, c'est-à-dire que la récupération de l'écologie est en marche. Là aussi, la pensée de Gorz semble utile en ce qu'elle est une critique radicale du productivisme et du capitalisme.
Absolument. Et je crois justement que la pensée radicale, comme vous dites, d'André Gors, c'est justement de montrer à quel point il ne peut pas y avoir de récupération de l'écologie par le capitalisme. Ces deux choses-là sont absolument antinomiques. Ce qui est dramatique aujourd'hui, c'est la soumission de toute la vie à la logique économique et qui est en train de démontrer l'impasse dans laquelle nous sommes rentrés et que si nous ne changeons pas complètement de logique de façon radicale, eh bien, effectivement, le capitalisme débouchera sur une forme de barbarie. Il disait dans ses derniers écrits, dans ses derniers moments de sa vie, que selon lui, nous étions rentrés dans une phase où le capitalisme était en train de s'effondrer avec une forme de bifurcation, soit cette sortie du capitalisme se fera dans une logique barbare, soit elle se fera de façon civilisée et que d'une certaine manière, l'orientation que nous pourrons prendre, elle nous appartient à nous, collectifs, sociétés, dans la mesure où on peut effectivement changer ce paradigme et empêcher la logique économique aujourd'hui de soumettre toutes les sphères de la vie à sa propre logique qui est une impasse.
Tout ce que l'homme fut, de grand et de sublime, sa protestation, ses chants et ses héros, au-dessus de ce corps et contre ce bourreau, à Grenade aujourd'hui surgit devant le crime, et cette bouche absente, et l'orca qui s'est tue, emplissant tout à coup l'univers de silence. Contre les violents, tourne la violence. Dieu le fracas que fait un poète qu'on tue. Un jour, pourtant, un jour viendra, couleur d'orange, un jour de paix. Un jour de feuillages au front, un jour d'épaules nues où les gens s'aimeront, un jour comme un oiseau sur la plus haute branche. Je désespérais de mes frères sauvages. Je voyais l'avenir à genoux, la bête triomphante et la pierre sur nous, et le feu des soldats porté sur nos rivages. Quoi, toujours ce serait par atroce marché, un partage incessant que se font de la terre entre ces assassins que craignent les panthères et dont tremble un poignard quand leur main l'a touché. Un jour, pourtant, un jour viendra, couleur d'orange, un jour de palme, un jour de feuillages au front, un jour d'épaules nues où les gens s'aimeront, un jour comme un oiseau sur la plus haute branche.
C'était André Gorz, Sortir du capitalisme, une nouvelle diffusion d'une série d'entretiens de Daniel Mermet avec Christophe Fourel. Merci à Catherine Louis et à l'émission À Voix Nue de France Culture, d'où proviennent les archives sonores d'André Gorz. À noter ce soir, Jean Stern présentera les patrons de presse nationale en présence de son éditeur, Éric Hazan. Rendez-vous donc à 19h30 au restaurant Le Lieu-dit, Paris 20e. Vous retrouverez toutes ces informations sur le site de France Inter à la rubrique émission Là-bas si j'y suis, sur le site la-bas.org, ainsi que sur la page Facebook de l'émission. À la technique aujourd'hui, Philippe Duclos et Yann Bouillot. Cette émission a été réalisée par Lucie Acoun et Chloé Sanchez, préparée par Franck Aderer. Et c'est Marion Dupas qui attend vos messages sur le répondeur de Là-bas si j'y suis au 01 56 40 37 37.
Quand j'ai appris que j'avais un cancer, le cancer, celui qui n'arrive qu'aux autres, est devenu mon cancer. Passé le premier choc, j'ai eu besoin d'en parler et qu'on m'écoute.
Cancer Info, c'est un service téléphonique à votre écoute et toute l'info de référence sur les cancers. Retrouvez Cancer Info sur e-cancer.fr ou appelez le 0810 810 821, prix d'un appel local. C'était un message de l'Institut National du Cancer et du ministère chargé de la Santé.
France Inter et le théâtre de la commune d'Aubervilliers présentent Que la noce commence. D'après le film Au diable Staline, vive les mariés de Horacio Malaele, adapté et mis en scène par Didier Bezas.
Écoute, Yanko, arrive le moment où il faut être honnête. Plus tu fais l'amour avec Mara, plus le devoir d'épouser grandit.
Si vous faisiez ça une fois par mois, on n'y penserait même pas au mariage.
Mais là, au train, on voit les choses.
Vous devez vous marier.
Retrouvez Que la noce commence du 27 novembre au 21 décembre au théâtre de la commune d'Aubervilliers, dans les émissions de France Inter et sur franceinter.fr.
France Inter présente Au-delà des collines, un film de Christian Mungiu. Double prix d'interprétation féminine et prix du meilleur scénario au dernier festival de Cannes. Au cinéma le 21 novembre. De nos jours, dans un couvent orthodoxe de Roumanie, une jeune femme est prête à tout pour convaincre son amie de fuir et de retrouver la liberté. Le prêtre qui voit en elle le diable incarné est déterminé à exorciser le mal qui l'habite. Retrouvez Au-delà des collines, le nouveau film de Christian Mungiu, dans les émissions de France Inter et sur franceinter.fr.
Tout le monde connaît la rougeole, cette maladie très contagieuse qui donne des plaques rouges sur tout le corps.
Mais ce que tout le monde ignore, c'est qu'elle ne concerne pas que les enfants. Et surtout, qu'elle peut être grave.
Chez les 15-30 ans, elle conduit à l'hôpital dans un cas sur trois.
En France, on la croyait disparue. Et pourtant, la rougeole est de retour.
La seule protection, c'est la vaccination.
Si vous avez entre 15 et 30 ans, vérifiez vos carnets de santé. Parlez-en à votre médecin.
Plus d'informations sur info-rougeole.fr. C'était un message de l'INPES et du ministère chargé de la Santé.
Très bon après-midi à l'écoute de France Inter, il est tout pile 16h. Le flash avec Laetitia Gaillet.
Les conservateurs européens ont entériné la victoire de Jean-François Copé pour la présidence de l'UMP. Le PPE, le Parti Populaire Européen, invite aujourd'hui Jean-François Copé à Bruxelles le 13 décembre prochain, ce pour une réunion des dirigeants conservateurs en marge d'un sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union. L'aviation israélienne a lâché des tracts cet après-midi sur la ville de Gaza. Elle ordonne aux habitants de quitter immédiatement leurs habitations. Dans ces tracts, elle indique également en arabe la route à prendre. L'offensive terrestre est suspendue, mais pas l'aérienne. Pendant ce temps, les négociations, elles continuent. Mohamed Morsi, le président égyptien, assure qu'une trêve sera acceptée de part et d'autre dans les heures qui viennent. Par ailleurs, en Cisjordanie, des heurts ont éclaté cet après-midi à Hébron entre soldats israéliens et jeunes palestiniens qui protestaient contre la mort de l'un des leurs hier lors d'un rassemblement de solidarité avec Gaza. Après avoir dégradé la note de la France, Moody's évalue aujourd'hui les effets sur le fonds de secours de la zone euro. Dans un communiqué, l'agence de notation explique que pour l'instant, le FESF et le mécanisme européen de stabilité conservent leur triple A, mais la note pourrait aussi baisser du fait de la dégradation de la note souveraine de la France. Concernant le cas de la Grèce, la zone euro, par la voix de Jean-Claude Juncker, le président de l'Eurogroupe, a de bonnes chances d'aboutir à un accord. Cet accord devrait ouvrir la voie au déblocage d'une aide de 44 milliards d'euros afin d'éviter à Athènes la faillite. La justice allemande a bien reçu aujourd'hui la demande d'extradition de la France du ravisseur présumé de Chloé. Il reste maintenant à l'examiner. Hier, le procureur allemand en charge du dossier a déclaré que rien ne s'y opposerait étant donné la nationalité du ravisseur présumé et de la victime, tous deux sont français. 13 policiers suspendus de la BAC Nord de Marseille ont été réintégrés. C'est ce qu'affirme aujourd'hui une source proche du dossier. Ils avaient été suspendus le mois dernier dans le cadre de l'enquête sur des extorsions d'argent et de drogue. Ces hommes ont été réintégrés notamment dans le sud de Marseille. L'enquête française sur le naufrage du Jola au large du Sénégal en 2002 va pouvoir se poursuivre. La Cour de cassation a déclaré cet après-midi irrecevables les pourvois formés par les responsables sénégalais soupçonnés de négligence dans cet accident qui a coûté la vie à 1863 personnes. Un frère de Ségolène Royal devra répondre en janvier devant la justice d'outrage à Agen. Henri Royal a passé la nuit dernière en garde à vue à Courbevoie dans les Hauts-de-Seine après avoir insulté des policiers. Avec sa femme, ils avaient bu et choisi de rentrer en taxi chez eux quand une altercation a éclaté entre le couple et le chauffeur. Et c'est à leur arrivée que les policiers ont été insultés. L'Institut Civitas, qui avait organisé la manifestation contre le mariage homosexuel dimanche à Paris, va porter plainte contre les militantes féministes du Femen. Une plainte pour injures, exhibitions et violences en réunion avec armes, en culotte et le torse nu, portant des insultes contre l'Église. Elle s'était invitée dans les cortèges des catholiques de Civitas, manifestation qui avait ensuite dégénéré. Enfin, les téléphones portables d'urgence pour les femmes victimes de violences seront généralisés l'an prochain sur toute la France. Pour Najat Vallaud-Belkacem, la ministre des Droits des Femmes, ils ont fait la preuve de leur efficacité. Vous écoutez France Inter, 16h03.
Tous les matins, à partir de 10h, service public, Guillaume Hermer.
La schizophrénie, le mot est familier, et cependant cette maladie demeure pour nous mystérieuse. Nous croyons en connaître les symptômes, mais ceux-ci sont rarement racontés de l'intérieur par ceux qui les vivent. D'où l'intérêt de ce témoignage d'un homme atteint de schizophrénie. Nous attendons vos questions et vos commentaires à ce sujet au 01 45 24 7000, sur le site internet de France Inter, franceinter.fr, et sur les réseaux sociaux, nous sommes Service Public FI.
Service Public, demain sur France Inter, à partir de 10h.
France Inter.
La voix est libre.
Carrefour de l'Odéon, c'est avec vous Frédéric L'Odéon, bonjour.
Bien. Bonjour Laetitia Gaillé. Carrefour de l'Odéon. Bonjour à tous, on l'a connue enfant prodige, elle est maintenant une jeune femme conquérante dans le domaine de la carrière, elle donne des récitals un peu partout dans le monde, on l'a entendue à la Folle Journée de Nantes, à Tokyo, en Allemagne, à New York, à Moscou, Saint-Pétersbourg, et puis dans pas mal d'autres endroits, je cite à tout hasard Copenhague, Lucerne, puisqu'on nous écoute en Suisse, et voilà, et plein d'autres concerts. Lise de la Salle, née en 1888, donc elle a 24 ans, elle a commencé le piano à la de 4 ans, et puis elle a donné son premier concert en direct sur Radio France à l'âge de 9 ans. Et ben voilà, ça continue, c'est bien quand on commence très jeune, mais on est toujours applaudi. Après, il faut durer, c'est d'ailleurs le projet important de tout artiste, c'est la qualité principale, c'est l'endurance, je pense, avec le talent, le courage, la résistance aux critiques aussi. Donc Lise de la Salle nous propose un portrait, et voici tout de suite, pour commencer, une sérénade, Stenchen de Franz Schubert, revue par Franz Liszt. Thank you. Ptenchen, sérénade de Franz Schubert, transcrite par Franz Liszt et interprétée par Lise de la Salle. C'est un disque qui sort aujourd'hui, qui comporte aussi d'ailleurs un DVD, où on peut voir et entendre Lise, évidemment, donner un concert. Donc c'est tout à fait complet si on veut connaître cette jeune artiste. Le concert sur DVD propose un enregistrement au Théâtre des Bouffes du Nord avec Franz Liszt, pas mal de pièces, deuxième ballade, funérailles, nuages gris, après une lecture du Dante, et puis Schumann, et puis aussi Frédéric Chopin, un film de Jean-Philippe Perrault. Mais voici quelque chose de plus bouillonnant, de follement romantique, angoissé, virtuose, Sergueï Rachmaninov, en majesté à travers ses études tableaux, et une pièce est bien nommée, elle s'appelle Allegro Agitato.